Bienvenue à Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi, votre animatrice, et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, comme toujours, Jeanne et Annabelle. Aujourd'hui, on se concentre dans cet épisode sur les inégalités de genre et les changements climatiques. Pour commencer, on peut dire que les changements climatiques ne sont pas neutres par rapport au genre. Dû aux inégalités déjà existantes entre les hommes et les femmes, nous voyons que les femmes sont atteintes de manière disproportionnée par les changements climatiques, mais aussi que les changements climatiques amplifient les inégalités existantes entre les hommes et les femmes. Ça affecte plus particulièrement donc leurs moyens de subsistance, leur santé, mais aussi leur sécurité, et ce, un peu partout dans le monde. Donc, on voit toutefois que les femmes se retrouvant dans des situations les plus précaires sont encore une fois celles qui sont les plus affectées par la crise climatique. Donc, il est pertinent de voir cet enjeu-là d'inégalité par rapport au changement climatique sous une perspective intersectionnelle. Donc, l'intersectionnalité, c'est quoi? C'est un concept utilisé pour comprendre comment une personne peut vivre différentes formes de discrimination simultanément. Donc, comment, de par son identité, une personne se retrouve à l'intersection de plusieurs formes d'oppression? On peut penser au sexisme, au racisme, au classisme, etc. Et donc, comment ces situations-là de discrimination se renforcent mutuellement aussi? Dans ce contexte-ci, alors qu'on parle des changements climatiques, ça nous permet de prendre conscience que des femmes vont ainsi être plus affectées que d'autres par les changements climatiques. Donc, oui, les changements climatiques vont affecter de manière disproportionnée toutes les femmes, mais de manière différente selon leurs réalités respectives. Donc, on peut notamment penser aux femmes plus âgées, aux femmes en situation de pauvreté, celles qui vivent dans des pays à plus faible revenu, les femmes aussi qui vivent dans des zones rurales et éloignées, ou celles qui vont vivre dans des régions qui vivent souvent des catastrophes naturelles ou celles qui vivent en zone de guerre, les femmes migrantes, les femmes autochtones, etc. Donc, des femmes qui vont vivre plusieurs oppressions en même temps et donc que l'impact des changements climatiques vont être encore plus important sur leur expérience et leur réalité. Donc, c'est pour ça que la perspective intersectionnelle importante pour analyser l'impact différencié des changements climatiques entre les femmes, mais c'est aussi important pour aider à trouver des solutions qui sont justes et équitables en prenant compte des différentes réalités et expériences de vie. Et en fait, c'est là que les questions de justice sont importantes à se poser. Pour commencer, en fait, on a plusieurs exemples de comment les conséquences des changements climatiques, comme la montée des eaux, l'augmentation de la fréquence des sécheresses ou des catastrophes naturelles, ont un impact différent sur les femmes. Donc, Jeanne, je te laisse commencer avec un des exemples.
Donc, en effet, on va commencer avec la chaleur extrême. Donc, on le sait, là, les changements climatiques entraînent une hausse des températures globales, ce qui peut entraîner évidemment là, des épisodes de canicule. Qu'on voit de plus en plus à travers le monde, mais surtout, on en a vu notamment au Québec, au Canada. Ce qu'on remarque, c'est que ça impacte davantage les femmes que les hommes, surtout les femmes plus âgées, mais également là, les femmes enceintes. On sait que les personnes les plus à risque de décès lors de canicule, c'est les enfants en bas âge, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes à faible revenu et isolées, également là, les femmes enceintes. Donc, ça représente plus de femmes parce que d'abord, c'est les femmes qui vivent le plus souvent en situation de pauvreté. On le voit là, selon les statistiques, mais également, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Donc, en termes de personnes plus âgées, ben, on en retrouve une plus grande proportion. Donc, le vieillissement, dans le fond, c'est une réalité qui est davantage féminine que masculine. Puis, évidemment, là, on voit qu'il y a comme une intersectionnalité, justement, on l'a dit plus tôt. Donc, les femmes aînées sont souvent dans des situations plus vulnérables que les hommes du même âge parce qu'on a une combinaison de, du critère de l'âge, donc la vieillesse, puis du critère là, de la vulnérabilité financière. Donc, habituellement, elles ont une situation là, moins intéressante là, en matière de pension, de fonds de retraite que les hommes. Évidemment, là, c'est un peu une résultante là, des inégalités salariales là, qu'elles auront vécues tout au long de leur vie, puis qui existent encore malheureusement là, aujourd'hui. Donc, il faut penser au fait que ce sont souvent les femmes aussi qui doivent s'occuper des enfants, des malades, des personnes âgées. Dans le fond, là, les femmes, c'est toute la responsabilité qu'on dit du care, donc de prendre soin. Puis évidemment, c'est elles aussi, dans la même veine, là, qui sont souvent des proches aidantes. Donc, en temps de canicule, mais de catastrophe générale là, ou de perturbation climatique, c'est sûr qu'elles, déjà qu'elles ont une responsabilité accrue, mais ça s'accroît d'autant plus qu'elles ont à leur charge non seulement leur propre santé, mais celle des autres. Donc, les femmes, finalement, là, physiquement, seraient en plus moins tolérantes à la chaleur extrême du fait qu'elles transpirent moins. Elles ont un taux de métabolisme là, plus élevé, puis des tissus adipeux sous-cutanés plus importants, là, ce qui altère là, la transpiration comparée aux hommes. Donc, au final, c'est comme toute cette addition-là de facteurs qui fait que dans des épisodes caniculaires, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, là, elles vont être plus vulnérables. En effet, là, pour vous donner là, un exemple de statistique, dans les canicules là, du début des années 2000 en Europe, on a remarqué là, que c'est le 2/3 des décès qui étaient des femmes. Donc, ça vous donne quand même une idée là, du déséquilibre qu'il y a eu dans le risque de mortalité. Mais tu sais, c'est pas juste... ça, c'est la conclusion un peu finale et dramatique, mais tu sais, ça a aussi... ça s'impacte sur toute la chaîne. Donc, les hospitalisations, les cas de déshydratation, de chute de pression, là, tout ça, dans le fond, c'est juste plus élevé chez les femmes.
Oui, exactement. Donc, un risque de mortalité, mais aussi de complications médicales pour les femmes en période de chaleur extrême. Donc, maintenant aussi, on a des exemples, en fait, des impacts différenciés pour les femmes par rapport aux sécheresses. Donc, Annabelle, je te laisse y aller avec ça.
Oui, donc, en fait, c'est un autre phénomène, les sécheresses, qui impactent davantage les femmes que les hommes quand on parle de changement climatique. En fait, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais dans les pays qui sont dits comme étant en développement, la majorité des emplois dans le secteur agricole sont occupés par des femmes. Donc, avec les sécheresses qui sont causées par les changements climatiques, les récoltes sont moins bonnes et donc les travailleuses agricoles doivent travailler encore plus dur pour exploiter leurs terres et assurer des revenus. Elles doivent aussi travailler plus dur pour trouver de la nourriture, en fait, puis d'autres ressources pour subvenir aux besoins de leur famille. En fait, c'est souvent les femmes, on le sait, qui traditionnellement ont la responsabilité du care. Vous m'excuserez pour l'anglicisme, en fait, mais c'est vraiment un terme utilisé dans la littérature. Puis ça réfère au fait que c'est les femmes qui vont davantage prendre soin de leurs proches, donc on parle de leur famille, des enfants et des parents âgés. Donc, un travail plus ardu pour subvenir à leurs besoins puis pour exploiter leurs ressources, ça crée aussi un stress puis une pression assez intense ainsi que des impacts psychologiques pour les femmes. Par ailleurs, dans plusieurs régions du monde, la division genrée des tâches domestiques engendre que les femmes ont des plus grandes responsabilités dans l'approvisionnement en nourriture et en eau. C'est donc traditionnellement les femmes encore qui ont la responsabilité d'aller chercher et puiser l'eau pour leur famille et leur communauté. Par contre, les sécheresses vont amener un accès encore plus difficile à l'eau, puis c'est les femmes qui vont se retrouver à en souffrir le plus. Elles doivent donc marcher souvent de plus longues distances pour accéder à ces ressources-là en eau, puis ce qui augmente notamment les risques de violence et d'attaque durant leur trajet, mais qui affecte aussi leur santé.
Puis aussi, on peut penser au fait que cette situation ajoute une pression accrue, plus particulièrement sur les jeunes filles. Elles vont souvent être contraintes de quitter l'école plus tôt pour aider leur mère dans ces tâches-là, justement, d'approvisionnement, qui deviennent de plus en plus ardues, donc que ce soit dans le domaine agricole ou pour accéder aux différentes ressources. Oui.
Bien ça, clairement, en plus, je pense que ça serait intéressant de le lier avec des inégalités dans le système d'éducation, en fait. Mm-hmm. Si les petites filles doivent s'acquitter d'une tâche supplémentaire d'aller chercher de l'eau, elles ont moins la chance d'aller à l'école aussi. Fait que ça vient ajouter une inégalité de plus, je pense.
Justement, dans plusieurs régions du monde, il faut penser au fait que les petites filles ont déjà de la difficulté à aller à l'école et donc leur accès est encore plus difficile à l'éducation. Donc, maintenant, on y va aussi avec la montée des eaux.
En effet, donc, ce qui concerne l'impact le plus direct de la montée des eaux, les inondations, donc, elles affectent aussi tout particulièrement les femmes. Donc, on le constate, là, ce type de catastrophe naturelle, que ce soit les inondations en soi, liées à des cycles là, comme les moussons qui sont plus abondantes ou vraiment des catastrophes naturelles comme les cyclones, les ouragans, les tornades, on voit que les victimes sont... davantage des femmes et des filles. Donc, par exemple, là, pour le cyclone Marianne au Bangladesh en 1991, donc on le voit là, déjà, les effets se font sentir dans les années 90. Donc, ça aurait coûté la vie à 140 000 personnes, puis 90% étaient des femmes et des enfants. Donc, c'est des inégalités qui sont déjà existantes entre les hommes et les femmes en termes là, d'accès à l'information ou des ressources lors de contextes de catastrophes. Donc, les femmes ont plus de difficultés à être informées quant au risque là, de par exemple, d'évacuation ou s'ils sont dans une zone inondable, des choses comme ça.
Ça vient aussi avec le manque d'éducation que ces femmes-là peuvent déjà avoir.
Oui, dans le fond, c'est une situation un peu d'isolement là, qu'on voit. Et donc, ça rend plus difficile la prise de décision. Puis également, la mobilité là, dans le cas où il faudrait, par exemple, être évacué. Ce qui explique que les femmes, bien évidemment, sont plus susceptibles de mourir ou d'être blessées lors des catastrophes naturelles. On peut aussi penser à des... beaucoup de facteurs culturels dans certains pays, notamment le fait que dans certaines régions, contrairement aux hommes, les femmes, on ne leur enseigne pas à nager. Donc, dans des cas d'inondation, ça peut là considérablement réduire leurs chances de survie. Même chose pour, notamment, on parle des habillements, donc les coutumes. Dans plusieurs pays, encore aujourd'hui, on constate que ben, la femme, là, elle doit être dans des vêtements plus longs. Donc, on évite, là, par exemple, le port du pantalon, on est plus dans la robe, la jupe. Qui ont été prouvés que c'est en cas de d'inondation, c'est beaucoup plus difficile, là, par exemple, de nager ou de réussir là, à se sortir, par exemple, d'une situation d'engluement, là, par exemple, dans un glissement de terrain ou des choses comme ça. Oui. En plus, là, on a tout ça, là, puis là, en plus, on revient avec la question, là, la responsabilité, là, de la famille, par exemple. Mais c'est un stress psychologique supplémentaire parce que souvent, c'est elles qui doivent se sauver, mais doivent aussi s'occuper de leur famille, des autres, par exemple, de leur communauté, de leur entourage. Puis, suite à la catastrophe, souvent, c'est à elles de rétablir là, la communauté, d'essayer de passer par-dessus la crise, habituellement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un peu, là, elles sont le liant d'une communauté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités qui leur incombent dans ces circonstances-là. Alors que les hommes, habituellement, là, sont plus... eux, dans ces communautés-là, occupent le rôle du travail. Donc, parfois, ils ne sont même pas là, sur les lieux lors là, de l'événement. Là. Voilà.
Donc, encore une fois, c'est vraiment les rôles sociaux, genrés là, du travail qui vont affecter plus grandement les femmes dans leur rôle, justement, leur responsabilité qui leur incombe en tant que femmes.
Oui, donc, une autre conséquence, en fait, des changements climatiques puis des catastrophes naturelles, on le sait, c'est les migrations forcées. Puis quand on parle de migration, ben en fait, les femmes représentent un nombre important dans les personnes qui se voient forcées à migrer à cause des changements climatiques. En fait, selon un rapport qui est paru en 2016 des Nations Unies, 80% des personnes qui migrent à cause des changements climatiques sont des femmes. Puis ça, on peut le déduire, ça affecte évidemment grandement leurs conditions de vie. Par exemple, ben, quand on est obligé de se déplacer, ça peut empêcher aux femmes de compléter leur éducation dans les pays, notamment en développement. Ça entraîne aussi des difficultés quant à se retrouver un logis, un travail, à s'occuper aussi des membres de sa famille desquels elles doivent prendre soin.
Mm-hmm. Ça peut aussi aussi la vulnérabilité quand on se trouve dans un nouveau pays où peut-être on ne parle pas la langue. On le voit que pour les femmes, habituellement, là, ça accroît la vulnérabilité. Lorsqu'on est dans un nouvel environnement là où on ne parle pas la langue, il y a plus de possibilités, par exemple, d'abus dans ces circonstances.
Oui, exactement.
Sinon, quand on continue, ben là, on s'en va sur un sujet peut-être plus difficile, donc les violences, la guerre. Donc, on voit que les conséquences des changements climatiques aggravent là, les tensions sociales, politiques et économiques. Dans les pays qui en sont victimes. Notamment, ça attise les conflits violents dans des régions qui sont souvent déjà instables, par exemple, là, on le souligne, là, où il y a déjà des conflits armés. On pense notamment à des régions de pays en développement, on pense l'Afrique subsaharienne. On peut penser également là, au Moyen-Orient. Donc, les femmes sont donc évidemment plus vulnérables à la violence armée, vu qu'habituellement, elles ne sont pas enrôlées dans les factions. Puis donc, elles restent sur place, puis elles sont un peu victimes là, du passage là, des factions armées. Mmh. Et évidemment, là, elles sont plus à même là, d'être victimes de violences sexuelles, de féminicides ou de traite humaine, entre autres. Dans ces conflits-là, on l'a vu, habituellement, là, la violence envers les femmes est une sorte d'arme qui est utilisée par certaines factions. Donc, plus il y a de conflits, plus il y a de chances que cette stratégie-là là, soit utilisée. Ce qui, évidemment, là, est fait au départ là, des communautés féminines là, qui se trouvent sur place. Donc, depuis, il a été observé dans plusieurs études que les femmes, suite à un événement extrême, donc comme des catastrophes naturelles, vont être plus à risque de vivre des violences sexuelles ou de la violence conjugale, même pas dans un cadre de conflit. Donc, juste généralement. Donc, une étude de 2021 là, sur les conditions climatiques extrêmes au Kenya démontre que les violences conjugales auraient augmenté de 60 % dans les régions qui ont vécu ces catastrophes. C'est sûr qu'évidemment, il faut faire attention quand on fait des corrélations. Donc, les liens ne sont pas toujours directs. Mais en fait, ce qu'on veut expliquer un peu, c'est que les catastrophes naturelles qui sont des impacts des changements climatiques, ça accroît la tension et la difficulté de vivre dans certaines régions. Puis ça accroît la frustration de certaines populations. Puis ça crée un climat là, qui habituellement là, est délétère pour les les femmes qui sont souvent là, un peu à la merci ou soumis aux hommes qui eux ont par exemple là, tous les privilèges financiers, les privilèges du contrôle de la terre, des choses comme ça là. Donc on veut juste souligner que c'est une situation dans le fond de vulnérabilité accentuée là.
Donc, merci à vous deux pour les exemples concrets des impacts différenciés des changements climatiques sur les femmes. Donc, évidemment, comme on en parle depuis le début de nos épisodes, il y a des solutions pour freiner et s'adapter aux changements climatiques. Mais pour bien réussir la transition, il faut prendre en compte la question de justice. Et donc, il est important de prendre en compte les inégalités de genre existantes dans la création et la mise en place de solutions pour combattre à la fois la crise climatique et les injustices sociales. Mais c'est aussi important, en fait, pour que les femmes ne se retrouvent pas encore plus discriminées dans la transition.
Oui, et puis là, quand on va parler de justice climatique, c'est vraiment important de prendre en compte la question d'inclusion. Donc, le plus important, à mon avis, c'est de favoriser et d'intégrer les femmes dans les sphères décisionnelles de la société, puis plus précisément dans les décisions liées aux mesures climatiques et environnementales. C'est important, quand on parle de changement climatique, que les femmes soient pas seulement représentées comme des victimes, mais aussi comme des actrices, des participantes dans la lutte au changement climatique. Puis ça leur donne une agentivité et ça leur permet de s'émanciper. On peut aussi utiliser le terme « empowerment » quand on parle d'inclusion des femmes dans les sphères décisionnelles, parce que ça leur permet une représentation égalitaire, en fait, dans les sphères de pouvoir. Puis en d'autres mots, c'est pas vrai que les femmes sont seulement passives face aux désastres, puis qu'elles doivent être « sauvées », entre guillemets. Là. Elles sont aussi capables de prendre des choses en main puis d'apporter des solutions. C'est aussi important d'inclure les femmes dans les instances de pouvoir décisionnel parce que ça permet de prendre en compte des visions puis des expériences de vie qui sont différentes que celles qui sont valorisées historiquement parce qu'on le sait, c'est historiquement les hommes qui ont été dans des positions privilégiées. Donc, inclure les femmes, ça peut nous permettre de voir ces enjeux-là sous un nouvel angle puis de trouver des solutions novatrices. C'est effectivement documenté là, par des études et sondages que les femmes et les hommes auraient des visions, des valeurs différentes concernant la lutte au changement climatique. Par exemple, les femmes privilégieraient un peu plus des changements de comportement, de style de vie, au niveau individuel pour réduire leurs émissions, alors que les hommes, de leur côté, appuieraient davantage des solutions un peu plus techniques, technologiques, puis au niveau gouvernemental.
Donc ainsi, le fait d'intégrer plus de femmes dans les politiques climatiques, ça nous permettrait d'adopter des solutions qui ciblent les inégalités qui touchent les femmes, puis qui pourraient aider par le fait même là, à lutter contre les changements climatiques. Donc, par exemple, on peut penser là, à mettre en place des politiques pour faciliter l'accès au crédit, aux technologies pour les femmes dans le domaine agricole. Donc, comme on l'a dit plus tôt, là, les femmes sont majoritairement celles qui s'occupent des champs et des récoltes dans les pays les plus pauvres. Toutefois, elles ont accès à moins de ressources, que ce soit l'accès à la propriété, le crédit qui permet là, alors d'acheter de l'équipement, notamment des engrais ou des systèmes d'irrigation. Donc, au final, elles n'ont pas, dans le fond, les revenus suffisants pour s'occuper des terres de manière là, optimale. Puis en plus, elles ne possèdent pas les terres. Donc au final, là, elles font peu de revenus à partir là, de la production. Donc, elles sont beaucoup moins productives et beaucoup plus vulnérables. Or, si on assurait un meilleur accès aux ressources agricoles pour les femmes, bien, ça leur permettrait, un, d'avoir un meilleur rendement agricole, ce qui aiderait par le fait même à contrôler là, les émissions de GES, possiblement les réduire parce qu'elles seraient en mesure d'instaurer là, des mesures d'atténuation dans leurs petites exploitations. Puis en plus, quand les terrains produisent plus et mieux, ben ça diminue la pression sur la déforestation. Donc, encore une fois, on crée des puits de carbone. Oui, ça permet, il y en a peut-être dans des pays plus en développement, là, de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment, là, dans le fond, là, de permettre aux femmes d'être des productrices efficaces et propriétaires de leur terre. Ben, au final, ça peut juste là, contribuer là, à une amélioration là, de la production agricole mondiale. Plus proche de nous, on peut prendre aussi les politiques de transport en commun comme exemple. Donc, il est important d'accroître puis de diversifier l'offre en transport en commun, mais surtout en prenant en compte la dimension de genre. Donc, il faut penser que les femmes, souvent, ils ont des réalités professionnelles, sociales, familiales qui sont différentes des hommes. Donc, il faut prendre en compte leurs besoins en termes d'horaire puis de localisation des points de service, puis les intégrer là, à nos politiques d'aménagement du territoire. Donc, on peut penser notamment que les femmes là, ont souvent des emplois qui sont davantage dans le milieu des services sociaux, donc que ce soit l'éducation ou les systèmes de santé. Donc, prévoir là, des aménagements puis des sites de départ là, près de ces lieux de travail. Mais également que dans le cas là, des responsabilités familiales, ben, il faut également là, que ce soit à proximité de services là, en lien là, avec les enfants. Tout en, évidemment, là, faisant le lien là, avec les besoins qui peuvent être davantage masculins, mais il faut juste s'assurer que les besoins féminins sont intégrés et pris en compte. Puis il faut pas oublier la question de la sécurité. Je pense qu'on en parle de plus en plus en lien avec les transports en commun, surtout si vous avez vu là, ce qui se passe là, notamment dans la province voisine de l'Ontario, dans des villes comme Toronto. Donc, il faut prendre en compte la sécurité des femmes. Puis il faut y penser dans les nouvelles politiques et mesures. C'est sûr que c'est une question là, qui laisse place encore à beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches, mais il faut la mettre à l'agenda.
Et dernier point aussi sur pourquoi on devrait inclure plus de femmes dans les décisions climatiques. En fait, c'est surtout une question d'éthique aussi. On sait que les hommes ont aussi une plus grande responsabilité historique dans l'émission des gaz à effet de serre, puisque ce sont les hommes qui ont historiquement gouverné et qui ont imposé à tous et aussi aux femmes les décisions qui aujourd'hui constituent les causes en fait des changements climatiques. Et encore aujourd'hui, on voit que les comportements différenciés des hommes émettraient davantage d'émissions de gaz à effet de serre que les femmes à cause de leurs choix et de leur style de vie. Par exemple, en fait, les femmes seraient plus tentées à utiliser des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité ou l'éolienne, et les hommes seraient plus tentés à utiliser des énergies fossiles ou l'énergie nucléaire. C'est donc pour ça que c'est important que les femmes soient incluses pour changer leurs pratiques et influencer aussi avec des visions et des styles de vie différents qu'elles ont, elles, adoptés.
Je pense qu'il faut faire attention, par contre, avec cet argument-là, car effectivement, c'est sûr que c'est bénéfique que plus de femmes soient impliquées dans la lutte au changement climatique, mais il ne faut pas non plus que la responsabilité de la lutte climatique incombe 100% aux femmes non plus. C'est à tout le monde de faire des efforts pour adopter des pratiques qui réduisent nos émissions de GES, donc pas seulement aux femmes.
Oui, parfait. Ben, c'est un super point, Annabelle. Merci pour la clarification. Donc, on est rendu maintenant aux actualités climatiques de la semaine et on a décidé de vous parler des déchets et du gaspillage au Québec. Donc, dans les dernières semaines, deux dossiers sur la consommation québécoise ont retenu notre attention.
Oui, donc quand on dit consommation, ça rime aussi avec déchets. En fait, lors de son premier mandat, le gouvernement Legault s'était doté d'une cible de réduction de déchets d'environ une production par habitant de 525 kg annuellement. Par contre, aujourd'hui, en début 2023, on est loin de se rapprocher de cette cible. On est plutôt en train de s'en éloigner. Dans les dernières années, la quantité de déchets en fait produits annuellement n'a cessé d'augmenter pour atteindre un peu plus de 700 kg par habitant. Là, on va parler d'un aspect de cet enjeu-là, le recyclage. En fait, notre province fait assez piètre figure en termes de recyclage. Ça fait des années que le recyclage est en place dans les maisons du Québec, mais encore aujourd'hui, en 2023, chaque année, des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables se retrouvent encore dans nos dépotoirs. Selon un bilan publié en fin janvier, on estimait qu'en 2021, parmi toutes les matières recyclables au Québec, donc produites seulement par les ménages québécois, seulement 47 % étaient acheminées aux fins d'être recyclées. C'est vraiment très peu, là. C'est moins que la moitié. Puis ça constituait un recul par rapport à 2018, où là, c'était 52 des matières recyclables qui étaient recyclées. Ça peut notamment s'expliquer par le fait qu'en 2021, les matières rejetées par les centres de tri ont notamment augmenté comparativement à la quantité de 2018. Une tendance qui s'est en fait installée depuis 2015 dans la province. Ensuite, un deuxième dossier. C'est un enjeu qui a beaucoup fait jaser dans les dernières semaines, puis c'est la production d'électricité au Québec. En début janvier, au lendemain de la démission de Sophie Brochu, l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, François Legault a affirmé qu'il voulait que le prochain PDG de la compagnie d'État, en fait, soit en mode, et je cite, « en mode développement ». Le mot d'ordre des dernières semaines, là, si vous écoutez un peu l'actualité, c'est vraiment le fait de décarboner le Québec. Par contre, pour atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050, le Québec aura besoin de 100 TWh d'énergie supplémentaire. Si ça vous dit rien, les terawattheures, ça équivaut à peu près 50 % de la production annuelle d'Hydro-Québec. La CAQ, depuis le début de son mandat, semble insister sur la construction d'éoliennes de nouveaux barrages électriques. Mais avant de construire de nouveaux barrages, qui, on le sait, soulèvent de nombreux enjeux éthiques et environnementaux, il faut se demander si on utilise vraiment nos barrages actuels à leur plein potentiel. Ben, selon une étude... une enquête de Radio-Canada, la réponse serait non. En fait, on a appris quelques jours avant la grosse vague de froid qui a frappé le Québec en début février qu'Hydro-Québec sous-utilise de nombreux barrages. Tout récemment, le bilan énergétique effectué par le HEC nous a appris qu'en 2019, 52 % de l'énergie québécoise était perdue à cause d'inefficacité lors de la transformation, du transport et de la consommation d'énergie. Il nous semble donc que ce serait pertinent de trouver des solutions à cette perte d'énergie, surtout dans un contexte où le gouvernement entend développer les infrastructures énergétiques du Québec. Donc, dans un contexte d'expansion, la Société d'État Hydro-Québec devrait regarder ses pratiques et on devrait collectivement exiger qu'on réduise notre gaspillage d'énergie. Il ne fait aucun doute que les barrages hydroélectriques ont des avantages, qui sont la clé pour la transition énergétique et pour la posture stratégique du Québec, en fait. Mais ils ont aussi des coûts. Des coûts pour les contribuables, des coûts pour les communautés, puis des coûts pour les milieux naturels. Ben, si on décide qu'on est prêt à assumer ces coûts, il faudrait au moins s'assurer qu'on rentabilise pleinement le développement hydroélectrique.
Exactement. Puis, la question, justement, de l'hydroélectricité puis de notre consommation d'énergie aussi, c'est un enjeu très intéressant. Puis, je pense que ça va être un prochain épisode, en fait, là, sur l'hydroélectricité et les inégalités, en fait, que cette source d'énergie-là peut engendrer. Donc, c'est super, en fait, là. Merci de nous avoir mis au courant de cet enjeu-là. Donc, merci beaucoup pour les actualités. C'est ce qui conclut notre émission qui portait sur les inégalités de genre et les changements climatiques. Je vous rappelle que si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook dans la mer climatique, mais aussi par courriel à l'adresse dans la mer climatique @commercialoutlook.com. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À la prochaine!